Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, comme chaque semaine, nous revenons sur l'actualité du moment, et aujourd'hui je serai en compagnie de Mandren. Salut.
Salut.
Alors, nous commençons par nos news, et donc aujourd'hui nous allons commencer par Zelda, un nouveau Zelda en développement sur DS. C'est la news de la semaine, j'ai envie de dire, quelle surprise, on ne s'y attendait pas du tout.
Ouais, hein.
C'est alors, vrai. Morel, bah, toi alors, qui étais un déjà, grand fan de Zelda.
Déjà, il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine, mis à part un certain jeu open world dont on parlera à la fin. Oui, à la fin de la semaine, on nous a annoncé, enfin... Eiji Aonuma, qui s'occupe des Zelda de nos jours, a annoncé que Nintendo était en train de travailler sur un nouveau Zelda, sur 3DS. Alors évidemment,
ah oui, excusez-moi, pas de surprise. J'ai dit DS, un lapsus révélateur.
Je m'en suis même pas rendu compte, tu vois. Donc oui, sur 3DS, attention, 3DS, la nouvelle console de Nintendo. Donc sur 3DS, on avait eu évidemment le remake de Zelda Ocarina of Time, qui est excellent, je vous en parlerai un autre jour, que j'ai terminé il y a pas longtemps d'ailleurs. Et donc, il y a beaucoup de fans qui se sont dit, bon, après Zelda Ocarina of Time, on se doute évidemment que sur 3DS, il y aura Majora's Mask. Et puis Aonuma vient d'arriver avec cette petite interview et a dit en fait en substance que pour le moment Majora's Mask n'était pas en développement, le remake de Majora's Mask n'était pas en développement, que c'était une idée.
C'est dommage.
à laquelle ils pensaient beaucoup, mais que pour eux ils préféraient développer un Zelda original avant de se mettre à un nouveau remake. Ils pensaient que c'était pas légitime de faire deux remakes d'affilée et de laisser pour le coup les Zelda originaux, ce qui pour le coup est plutôt sympa comme idée à mon avis, même si personnellement j'aimerais bien voir Majora's Mask débarquer sur 3DS.
Après, je vais faire mon roulou, quitte à faire des remakes, ils auraient pas pu faire un remake de Majora's Mask au lieu d'un remake de Ocarina of Time, fin de parenthèse. Parce que tu veux, Ocarina of Time, en fait, c'est un jeu qui a tellement été porté sur les machines que je veux dire, enfin, qui ne l'a pas fait aujourd'hui, alors que Majora's Mask, voilà quoi, c'est un jeu 64.
Je suis surpris du nombre de personnes qui ont découvert Ocarina of Time sur 3DS, hein, quand même.
Oh.
C'est impressionnant. Moi, je vois sur les forums ou autres des gens qui disent ouvertement que c'est la première fois qu'ils touchaient ou même qu'ils voyaient Ocarina of Time. Donc
c'est des bébés alors, c'est
peut-être mais c'est là qu'on voit le caractère intéressant de ces remakes.
C'est là que je vois que je suis vieux.
et donc voilà, et aussi il faut bien dire qu'il y a beaucoup de personnes, selon moi, il y a beaucoup de personnes qui disent ouvertement que Ocarina of Time est un chef-d'œuvre et qui n'ont jamais eu de Nintendo 64 et qui n'ont jamais eu de Zelda Ocarina of Time sur 64. Donc après voilà, je pense que c'est toujours une bonne chose d'avoir ce genre de remake là. Enfin bon, fermons cette parenthèse là. L'important c'est que Eiji Aonuma a annoncé que Nintendo travaillait sur un Zelda original. Donc original, ce sera pas du tout un remake sur 3DS. Et donc ça, à mon avis, ça annonce du bon. À savoir qu'il
juste une question.
Oui.
Avec ou sans second stick analogique?
Et c'est là la grosse question. Très personnellement, je pense qu'ils peuvent tout à fait se passer de second stick analogique. Après, tout dépend ce qu'ils font. Parce que tu vois, ça peut très bien être un Zelda full 3D comme un Ocarina of Time, comme un Majora's Mask, mais ça peut très bien être un jeu comme ceux qui sont sortis sur DS. Qui sont Spirit Tracks et Phantom Hourglass, qui sont tous les deux très bien d'ailleurs. Et là du coup, on n'a absolument pas besoin de deuxième stick. Et même chose pour un Ocarina of Time like. Donc personnellement, je suis pas sûr que ce soit qu'il soit en développement avec l'idée d'avoir un deuxième stick. Mais après, enfin, j'en sais rien du tout. Il y a aucun autre détail qui n'a filtré pour le moment. On se doute bien qu'ils vont prendre au moins 2 ans avant de le sortir. Donc, ça m'étonnerait pas que pour le moment, ça soit juste une annonce comme ça. Après, c'était un secret de Polichinelle, hein, qu'il y avait un autre Zelda original qui était
Ouais, je veux
en
dire,
l'équipement.
c'est comme s'ils avaient dit « Ah, on va faire un nouveau Mario
C'est ça. On se
!»
pose même pas la
C'est...
question. Avec une nouvelle console de Nintendo, il y a forcément du Mario, il y a forcément du Zelda, que ce soit du remake ou des jeux originaux, c'est tout à fait normal. Et moi, personnellement, je suis assez content de voir qu'on va avoir aussi des jeux originaux sur 3DS. Parce que c'est vrai que pour le moment, on a eu pas mal de remakes et les jeux originaux arrivent dès novembre, mais ça se faisait un petit peu attendre. Et là, c'est cette histoire de bien montrer que sur 3DS, Nintendo n'abandonne pas sa 3DS et qu'il y aura bel et bien un Zelda original. Je pense que c'est aussi un moyen de montrer que Nintendo n'a pas envie tout de suite de lancer une nouvelle console et d'abandonner la 3DS. En tout cas, c'est mon avis. D'autant plus que la 3DS est en train de reprendre un petit peu
Ouais.
le poil de la bête, n'est-ce pas? Quelle transition?
Oh ouais, tu es trop fort, tu es mon héros, tu es mon idole. Alors, donc il faut, oui, la 3DS depuis plusieurs semaines, donc c'est une bonne nouvelle. Depuis plusieurs semaines, la 3DS se porte très bien au Japon. Il faut savoir que donc pas plus tard que cette semaine, donc elle était aux alentours de 60 000 exemplaires, hein, donc voilà.
La semaine, hein,
Respect. Sachant que les gros jeux ne sont pas encore arrivés, hein, donc voilà. Alors que la PSP, par exemple, bon, qui commence à être mamie, hein, mais qui se porte très bien, elle se vend à 30 000 exemplaires, mais quand même deux fois moins, quoi.
Ouais.
Donc là, a priori, ils ont dépassé enfin atteint l'objectif de 4 millions défixé en un mois.
Mais je crois que ça fait un moment, hein. J'ai pas vérifié quand est-ce que ça s'était passé, mais là en tout ça fait 2 millions de 3DS vendus sur le Japon.
Ouais,
Donc
sur cette année donc.
c'est plutôt
Sur cette
sympa,
année.
hein. Depuis
Donc.
février, je crois, non?
Oui, enfin sur l'année fiscale, donc
Ouais,
ouais.
d'accord.
Bah quoi qu'il en soit, bonne nouvelle pour la 3DS. On espère pour Nintendo que ça va continuer comme ça. Parce que.
De toute façon, ça ne fait aucun doute,
Bah,
vu les
surtout
jeux qu'il y a
qu'ils
sur.
ont. Nintendo a enregistré des pertes récemment, donc Et ça, c'était la mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire.
Ils
Pour
sont
les
pas les
actionnaires de
seuls,
la
hein,
boîte.
parce que ils sont pas les seuls dans l'industrie, hein, à enregistrer des
Ouais,
pertes.
mais bon,
Ça
si tu veux,
touche un peu tout le monde.
quand c'est Nintendo qui annonce ça,
Oui.
ça a une autre ampleur que si c'était Sega, par exemple, tu vois, parce que
Évidemment.
bon, voilà, c'est pas la même grosseur, c'est pas la même boîte, quoi, c'est autre
D'autant
chose.
plus que Nintendo a lancé quand même une nouvelle console cette année, il faut quand même le rappeler, et que enregistrer des pertes sur cette année-là, c'est quand même un mauvais signe, l'air de rien.
Mais bon. La 3DS reprend bois du poil de la bête.
Oui.
On espère que ça se poursuivra en Occident. Juste une petite parenthèse, on parlait de Zelda il y a un instant. Je voudrais vous signaler un petit jeu indépendant que j'ai découvert récemment. C'est un Zelda-like sur PC, donc, et qui est en développement. Ça s'appelle The Legend of Grindea. C'est un jeu indépendant. Recherchez sur Google ou allez sur les forums de carrière PC. J'ai fait un post récemment sur le topic des jeux indépendants. Franchement, c'est un bon vieux Zelda 2D vu du dessus avec un petit mix avec les Secrets of Mana parce qu'il y a un côté équipement et tout. Donc, je vous recommande d'aller voir. L'animation est juste. Il y a ma mâchoire qui est tombée par terre. Leur
Et c'est
animateur
pas
est.
souvent avec le tyran.
Leur animateur est un dieu vivant pour moi. Et je vous incite à aller voir.
D'accord.
D'ailleurs, je parlais d'indépendants. Bah, on va continuer comme ça. Hein. Vive les indépendants. Je vais vous parler du Indie Royal Bundle qui a été lancé il y a 2 semaines. Alors pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que dès la semaine prochaine, ils vont relancer une nouvelle campagne. Alors, qu'est-ce que c'est le Indie Royal Bundle, me direz-vous? En fait, la première édition, c'était 4 jeux. À savoir Ares, qui est une sorte de Megaman, pour résumer.
Est-ce que
Gamini
c'est aussi
Rou.
dur que Megaman?
Non, mais c'est super fun.
D'accord.
Gamini Rou, qui est un point and click bien old school ambiance Blade Runner. Sanctum, qui est un tower defense futuriste en vue à la première personne. Très très bien. Et enfin pour finir, Nimbus, qui est un jeu très spécial, mélangeant course et puzzle. Enfin, c'est très très conceptuel.
D'accord.
Et en fait, l'idée du bundle, contrairement au Humble Indie Bundle, c'est que là, vous n'avez pas donné le prix que vous voulez, ça commence à un certain prix et plus de gens vont acheter, plus le prix va augmenter en fait.
D'accord.
Et ma foi, ça s'est très bien passé vu qu'ils ont vendu 37 000 exemplaires du bundle. Donc vu l'initiative et vu que bon, faut savoir qu'à la fin, moi par exemple, j'ai payé aux alentours de 4 €. Donc voilà quoi, ils ont récolté des sous. Écoutez, ça a bien marché et bon, pour le moment, donc ces 4 jeux-là, c'est terminé, hein, ça s'est terminé la semaine dernière, mais
D'accord.
dans 3 jours, ils vont lancer un nouveau bundle. Enfin, un jour pour vous autres, chers auditeurs, vu que nous enregistrons ce podcast le dimanche. Je vous invite à
Alors,
surveiller
avec les
le web.
mêmes jeux ou d'autres?
A priori, ce sera d'autres jeux.
D'accord.
Donc, rendez-vous dans 3 jours pour découvrir les nouveaux jeux du bundle. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Me connaissant ma grande générosité,
Tu vas
je
investir.
t'entendrai pas. Donc, je répète le nom, c'est le Indie Royal Bundle.
Très bien.
Un autre bundle, et oui, parce que là, il s'agit de ceux qui ont fait le Humble Indie Bundle, donc le premier gros bundle qui est connu de tous normalement, hein, vu qu'on en a parlé sur des grands sites, n'est-ce pas? Et ils ont lancé une initiative, ça s'appelle le Voxatron Humble Début. Alors Voxatron, j'ai fait des news il y a très très longtemps sur ce jeu. Je vous invite, là, si vous n'avez pas vu le trailer, à aller le voir et ne serait-ce qu'écouter la musique qui rockse du poney, mais vraiment. Alors Voxatron, qu'est-ce que c'est? C'est un shooter en arène qui, comme son nom l'indique, tourne avec le moteur Voxel. Alors qu'est-ce que c'est Voxel? Vous devez connaître ce moteur parce qu'il a été utilisé autrefois dans un jeu très connu qui s'appelle Outcast. Et alors c'est un moteur qui, au lieu d'utiliser des polygones, en fait, utilise des cubes. Et enfin, c'est un moteur très spécial. Et donc, Voxatron arrive là et il utilise ce moteur. Et c'est un shooter, vous allez voir, qui a l'air franchement sympathique. Et donc, ce qui est intéressant avec ce bundle, donc, c'est que comme tous les Humble Indie Bundle, donc vous fixez le prix que vous voulez. Sauf que là, entre-temps, on a eu des surprises qui ont popé comme ça, parce que au début, il y avait que Voxatron. Sauf qu'après, ils ont rajouté des jeux. Donc, ils ont rajouté Blocks That Matter, le jeu de plateforme puzzle du studio Swing Swing Submarine, qui, je pense, est connu parmi nos auditeurs. Et ils ont aussi rajouté The Binding of Isaac, qui est sorti très récemment, et qui est le dernier jeu des auteurs de Super Meat Boy.
D'accord.
Sachant, petite précision, que tous les nouveaux acheteurs qui voudront se payer les jeux qui ont été ajoutés au fur et à mesure dans le bundle devront s'acquitter d'une somme qui correspond à la moyenne des dons des acheteurs. Donc actuellement cette somme est aux alentours de 5 $, mais elle va sûrement augmenter mécaniquement vu que il y a des chances que pas mal d'acheteurs payent ces 5 $ pour avoir ces jeux supplémentaires. Donc si vous êtes vraiment intéressé, eh ben ne tardez pas trop.
Mais alors du coup, si t'achètes le bundle là tout de suite, les prochains jeux qui vont arriver, ils seront rajoutés
Ah
directement?
oui,
Oh là là, mais c'est génial.
exactement. Et voilà, donc ils vont rajouter des jeux au fur et à mesure comme ça. Donc je vous invite à vous procurer ce bundle parce que a priori ils vont rajouter plusieurs jeux. Hein, donc plus ils vont en vendre, plus ça va augmenter quoi. Donc, allez-y. Sachant que pour j'ai oublié de le préciser, pour le Indie Royal
Bundle.
Bundle, je commence à m'emmêler les pinceaux,
Ça
excusez-moi.
fait tellement de bundles en même que c'est pas étonnant.
Eh bien, en fait, ce qu'ils avaient fait, eux, c'est que pour certains jeux, comme Sanctum, il y avait des DLC avec le jeu. Et plus ils en ont vendu, en fait, ils ont rajouté les DLC au fur et à mesure. Plus ils en
D'accord.
ont vendu, plus ils en ont rajouté. Et on a eu 3 DLC comme ça, parce qu'ils en avaient vendu plein. Donc,
Génial.
en tous les cas, 2 bundles, franchement, que je vous recommande. Si vous voulez avoir des jeux indépendants pas chers, et en général, c'est des bons jeux. Hein, je veux dire, pour en avoir testé Gaming Hero, c'est un excellent point and click. Ares, moi, bon, il a été assez moyennement noté sur Metacritic, mais moi, j'ai trouvé très bien. Sanctum, il paraît, j'ai pas encore eu le temps de tester, hélas, mais des échos que j'ai eu, il paraît que c'est un excellent tower defense.
D'accord.
Faites-vous plaisir. Je vais poursuivre ensuite sur un autre jeu indépendant qui s'appelle Kenshi. Alors là, pas de bundle, hein, c'est un jeu indépendant qui utilise un modèle à la Minecraft, c'est-à-dire que le jeu vient tout juste de sortir en bêta et que vous allez
Bêta ou alpha?
pouvoir en alpha, excuse-moi, vous allez pouvoir, il vient de sortir en alpha et vous allez donc pouvoir débourser 10 $. Donc quelques euros, vous ferez le convertisseur, hein, ça change. Vous allez donc dépenser 10 $ pour pouvoir accéder aux mises à jour de l'alpha. Voilà. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que bon, finalement, je veux dire, le jeu est encore en alpha, il vient tout juste de sortir en plus, donc a priori, bon, c'est pas non plus, on connaît, hein, c'est, ça va faire comme Overgrowth au début, il n'y a pas grand-chose à voir, mais je vous en parle quand même parce que le potentiel est très intéressant. En fait, Kenshi, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle un peu sur le modèle de ce jeu très intéressant qui s'appelle Mount and Blade.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un jeu où vous allez réunir des gens, en fait. Vous allez réunir une armée, construire votre cité, etc. Donc, alors. Sur le papier, le concept est très intéressant. En plus, moi, l'univers, pour le moment, j'adore parce que c'est du post-apocalyptique. Enfin, c'est dans un univers désertique post-apo avec des mecs qui se baladent en sabre, avec un sabre. Donc, moi, dès que je vois ça, oh, c'est trop beau. Donc, écoutez, je vous incite à y jeter un coup d'œil parce qu'a priori, il y a une démo donc qui est accessible à tous. C'est juste que si vous voulez avoir accès aux mises à jour, bah, il faudra payer 10 $. Donc moi je trouve qu'il y a du potentiel. Bon, évidemment, comme d'habitude, il va falloir attendre que le mec se trouve un bon musicien, que le gameplay commence à se mettre en place, etc. Mais en tout cas, c'est un jeu que je vous incite à suivre parce que franchement, si ça va dans la direction où je pense que ça va aller, ça peut être énorme quand même. Donc,
À suivre.
un jeu à suivre. Et donc, pour terminer,
Plus du
je
tout de
voudrais,
l'indépendant.
plus indépendant, là, je voudrais vous parler d'un jeu d'une boîte qui me tient, qui me fait chaud au cœur. Ça s'appelle, cette boîte s'appelle From Software et ils ont sorti un petit jeu hardcore récemment qui s'appelait Demon Soul, enfin Dark Souls. Lapsus révélateur encore une fois, tellement les deux jeux se ressemblent, n'est-ce pas?
C'est vrai.
Et pourquoi on vous parle de Dark Souls? Alors bon, je suppose que vous êtes tous là à y jouer, n'est-ce pas? Bande de hardcore geek, no life. Bon, on va arrêter d'insulter nos auditeurs. Hein.
Ne sont ce qu'en fait insulte en fait.
Ouais, c'est des titres honorifiques. Et
Exactement.
On vous en parle aujourd'hui parce que Dark Souls a été distribué à 1 500 000 exemplaires. Alors
Oui.
bon, évidemment, vous me direz, ce n'est que distribué.
Exact.
Mais, ça marque quand même une tendance que le
Tendance,
jeu doit pas mal bien se vendre quand même pour qu'il se soit distribué avec ce niveau-là. Parce que je pense pas que From Software est spécialement misé sur le jeu, quoi. À moins qu'il soit suicidaire. Donc, en tout cas, ça fait plaisir à voir parce que bon, un jeu hardcore comme ça, à 1 500 000 exemplaires, ça, voilà quoi. Alors, je pensais pas voir ça un jour.
Ouais, c'est impressionnant quand même, hein. Parce
Ouais.
que on peut partir du principe, grosso modo, que sur 1 500 000 exemplaires, il y a environ la moitié qu'on trouvait preneur. Généralement, c'est ça. Donc, l'air de rien, c'est quand même assez impressionnant pour un jeu qui s'adresse à un marché de niche, mais vraiment de niche dans le milieu gamer. C'est assez impressionnant quand même. Moi, je suis assez surpris parce que moi, personnellement, c'est le genre de jeu où on me dit, tu vas crever, tu vas crever, tu vas crever. Et là, je me dis, non, je vais fuir ce jeu comme la peste. Et j'entends toujours les gens dire, ah, oh, mais qu'est-ce que c'est bien, c'est dur, mais qu'est-ce que c'est bien.
Ah, c'est bon. Oh
Et c'est marrant quand même. Cette espèce de masochisme qu'il y a autour de ce jeu, je trouve ça assez fou. Et l'air de rien, ça montre que bah, quand c'est bien fait, des jeux qui sont durs, et bah, c'est assez jouissif quand même. Donc voilà. Donc moi personnellement, j'y ai pas encore joué, ni à Demon's Souls d'ailleurs. Donc toute cette aura autour de ces jeux-là m'intéresse, m'intrigue beaucoup en tout cas.
Bah, va falloir t'y mettre, hein, Coco.
Exactement. Dis donc, tu viens plus en soirée.
Au passage, toutes mes condoléances à Monsieur Erwan Cario, qui sous la vindicte populaire des forums de Silence on joue, a été obligé de tester le jeu, donc on attend avec impatience son test.
Exactement.
Courage,
ouais.
Courage Monsieur Cario, courage. Et maintenant, ladies and gentlemen, l'actualité de la semaine, je pense que tu seras d'accord, Mandarine.
Très clairement, oui, très clairement.
Et on l'attendait plus, on désespérait de le voir. Le trailer de GTA V est là, messieurs, dames!
Why did I move here? I guess it was the weather. Or the... that thing. That magic. You see it in the movies. I wanted to retire. From what I was doing, you know? From that line of work. Be a good guy for once, a family man. So, I bought a big house, came here, put my feet up, and thought I'd be a dad like all the other dads. My kids would be like the kids on TV. We'd play ball and sit in the sun, but, well, you know how it is.
Petit applaudissement. Et oui, donc ça fait un petit moment quand même qu'on attendait que GTA V se dévoile un tout petit peu. Et donc il y a une ou deux semaines, Rockstar avait dit « Attention, mercredi prochain, nous allons révéler le trailer de GTA V. » Et là, rien que de dire ça, la cote en bourse de Take-Two, c'est ça ? C'est Take-Two ouais. qui édite, a grimpé en flèche. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Et donc là, ça y est, le trailer de GTA V a été révélé. Et ouais,
c'est Rox, quoi. Comme tous les trailers de GTA, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. À chaque fois, c'est... j'ai bien aimé ce trailer. Pour moi, ça vaut pas celui de The Ballad of Gay Tony, qui était vraiment... Je crois que ça restera, je pense, mon best trailer GTA ever, parce que la musique, le titre, The Ballad of Gay Tony, j'étais juste à bord, taper une barre de fourrure derrière. Mais en tout cas, ce trailer-là, bon, j'ai moins aimé, mais c'est n'empêche que ça rock, ça, franchement.
C'est clair.
D'accord avec moi.
Alors, à savoir que, évidemment, toute la toile de l'Internet s'est élevée au moment de l'annonce de ce trailer. Et en conjecture et en rumeur et
j'étais sur les forums de Canard PC, c'était juste intenable quoi, des pages de vide, de néant où les mecs parlaient pour rien. Bah désolé monsieur, hein, mais je ne fais que constater. Hein.
Non mais c'est vrai que ce genre de truc amène évidemment beaucoup de conjectures et c'est toujours assez ridicule une fois qu'on a la vraie annonce. Donc
Surtout qu'il y a certains qui ont eu des surprises. Hein.
Et donc là, voilà, on le sait, GTA V se déroulera à Los Santos. Alors Los Santos, pour les ignares, c'est une ville, c'est une région que l'on avait découvert lors de GTA San Andreas, donc qui était sorti je sais même plus quand, je n'ai pas mes fiches. Et donc voilà, donc c'est déjà pour l'effet de surprise, on repassera, puisque ce ne sera pas une ville originale.
Bah, les gens désespéraient de voir GTA sortir des États-Unis, ce qui, à mon avis, était une hérésie, parce que bon, à part Londres, je veux dire, parce qu'il faut savoir donc que les créateurs de Rockstar sont nés à Londres, il me semble, donc c'est la seule ville en dehors des États-Unis qui a été dans un GTA, enfin, c'était dans un ancien GTA en 2D. Mm-hmm. Je les voyais mal, à part peut-être une ville asiatique, peut-être. Genre, je sais pas, Hong Kong, enfin des trucs comme ça, tu vois.
Okay, ouais.
Mais pour moi, GTA, c'est tellement affilié aux États-Unis ouais. que je voyais pas comment ils pouvaient le faire en dehors des États-Unis. Alors ceux qui fantasment au début sur la Bretagne parce qu'ils avaient vu une carte qui ressemblait à la Bretagne, lol, j'ai envie de dire.
Mais ça, franchement, l'air de rien, s'ils l'avaient fait, ils auraient une sacrée paire de balls hein, quand même pour faire un truc comme ça. Et donc bon.
Quoi qu'il en soit, ça se passe à Los Angeles.
Ouais. Donc c'est c'est vraiment le Los Angeles idéalisé de GTA.
Alors bon, par contre, l'ambiance a l'air très très différente du GTA. Enfin, ça dépend. Il y a le premier GTA Vice City qui ça se rapprocherait plus de Vice City en fait que de comment il s'appelait l'autre déjà le voilà de San Andreas. Donc ça sera a priori de ce qu'on a vu, je pense que ça se rapprochera plus de Vice City. Hein, t'es d'accord?
Oui, parce que alors si vous regardez bien le trailer en détail, la mise en scène d'ambiance en fait, vous arrivez avec des palmiers, des gens qui courent sur la plage, enfin tout ça c'est très très Vice City.
Alors c'est que très, ça, ouais, c'est très propre sur soi, c'est pas gras, tu vois. Oh, t'as vu?
C'est exactement. Alors que San Andreas était vraiment très gangsta rap. Là, pour le moment, on n'a rien vu de tout ça. Alors, il faut voir évidemment qu'on n'a encore pas vu le héros, la tête du héros, le look.
Par contre, on l'a entendu. Et a priori, ça a l'air d'être un bon père de famille, respectable, n'est-ce pas? Enfin, tout aussi respectable que puisse être un héros de GTA, n'est-ce pas?
Donc, déjà, à voir, il n'a pas d'accent, donc ce ne sera pas un étranger, a priori.
Ce ne sera pas un italien, je pense.
Ce ne sera pas un serbe nicobélique like.
Voilà.
Et donc voilà. Donc l'air de rien, on a quand même assez pas mal de petits tips, de petits indices sur ce que sera GTA V. Et l'air de rien, je sais pas si t'as vu, mais ça a l'air quand même. Enfin, sur ce qu'on a vu, ça a l'air d'être assez bien avancé hein, quand même.
Techniquement, c'est très joli. Hein.
C'est très très beau. Ouais.
Et il faut savoir que
bon, GTA, bien sûr.
Oui, ouais, mais enfin, faut savoir que faut bien comprendre une chose, c'est que le moteur de GTA n'a pas été poussé à fond parce que il y a une plateforme où il a été poussé à fond, c'est le PC, où les modeurs ont fait un travail de fou sur le jeu.
Ah oui.
Il faut bien voir que le GTA sur PC, il y a des mecs qui font tourner un jeu qui est photoréaliste.
Ouais, c'est clair.
Tu vois la tronche de caisse et tout, c'est juste wow quoi. Enfin, en tout cas, je dis pas que ça tournera comme ça sur 360, ça ne tournera jamais comme ça sur 360 ou PS3, mais ça prouve qu'il y a de la marge pour le moteur quoi.
Ouais.
Et de ce qu'on a vu, effectivement, il y a de la marge parce que je sais pas. Bon, en même temps, on n'a pas non plus vu tellement de choses que ça, mais du peu qu'on a vu, je trouve que ça avait l'air plus beau que ce qu'on a vu sur sur GTA 4 quoi.
Oui,
ça avait l'air clairement proche de Red Dead Redemption, si tu veux, que de GTA 4. Sachant que pour moi, Red Dead Redemption défonce GTA 4 techniquement.
Oh là. C'est magnifique. Alors, justement, en parlant de Red Dead Redemption, il y a certaines choses qui ont été révélées là tout au long de la semaine sur GTA 5, notamment pas mal de rumeurs de journalistes qui disent avoir vu GTA 5 et y avoir joué, et qui disent en fait que la carte de GTA 5. Donc, on a une ville, hein, bien évidemment, Los Santos, mais il y a toute sa région autour, et avec plusieurs villages, plusieurs villes, donc comme c'était dans San Andreas. Et a priori, la carte devrait être équivalente à 4 fois Liberty City dans GTA 4.
Bon, d'accord. Donc, elle sera plus grande que Red Dead, effectivement.
Impressionnant. Et donc, oui, alors, et là, c'est Rockstar qui le dit. Rockstar dit que la carte de GTA 5 est la plus grande carte qu'ils aient fait depuis, ben, tout jeu confondu. Donc, plus grande que Red Dead Redemption, qui était déjà très très impressionnante.
Ah ouais, elle était immense, cette carte, que j'ose même pas imaginer, oh mon dieu.
Et donc, à savoir que, en termes de possibilités, donc là, on part du côté des rumeurs. Il y a des journalistes qui affirment que là, on pourra contrôler des avions, ce qui était le cas dans San Andreas, on n'avait pas pu le faire dans GTA 4.
Alors, ouais, ça c'était très dommage. Ça manquait.
C'est vrai que ça aurait été sympa. Et a priori, la ville.
Ah oui, juste un mot qui évoquera quelque chose aux vétérans. Dodo. Les purs sauront de quoi je parle.
D'accord. Donc voilà. Et donc toujours en termes de sur la map, le journaliste dit affirme être parti de Los Santos et d'être allé en pleine campagne et qu'il lui a fallu 15 minutes en voiture pour y aller.
D'accord.
Ce qui est quand même si ça se
révèle. Bon après ça me fait un peu peur quand même parce que bon il faut si les trajets sont aussi longs. Je sais pas, il faut qu'il fasse quelque chose, parce que autant dans Red Dead ça passait, parce qu'il y avait des trucs aléatoires, enfin il se passait des choses, tu vois. T'avais beau circuler, il y avait tout, tu pouvais tomber sur ah tiens, il y a une fusillade là, ah tiens, si je faisais ça, ah tiens, je vais la capturer, enfin il y avait des trucs à faire, tu vois, pendant le trajet. Et là, alors que là, GTA, le problème, c'est que je veux dire, à part la circulation.
Ouais, et voilà. Alors justement, parce que du coup, ils ont révélé un certain nombre de choses concernant la vie de ce monde. C'est un monde qui a l'air d'être très très vivant, contrairement à celui de GTA 4, parce que celui de GTA 4, bah, l'air de rien, c'est très très
facilité. Faut pas exagérer, enfin, à moins de s'amuser vraiment à suivre des PNJ, enfin, franchement, je veux dire, moi, c'est un truc, je sais qu'il y a des mecs un peu tordus qui s'amusent comme ça, pour voir les failles du jeu, tu vois. Ah, ouais, tu vois que ce PNJ est scripté. Ouais. J'ai suivi pendant 4 heures, j'avais que ça à foutre, tu vois. Non, mais voilà. Non, mais tu vois. Pour moi qui faisais pas forcément, qui passait pas mon temps sur le PNJ, je veux dire, pour moi l'univers il avait l'air vivant comme ça, donc
oui,
voilà, c'est juste pour relativiser un peu, parce que ça me gêne un peu de dire que l'univers de GTA 4 était pas vivant, quoi.
Bien évidemment. disons que il était répétitif dans le comportement de ces PNJ.
Voilà,
c'est plus ça. Et donc a priori, donc il y a évidemment plein d'environnements différents, et notamment les environnements boisés. Où on pourra croiser des personnes en train de camper, enfin donc des campeurs, des jeunes en train de boire autour d'un feu de camp, donc des gens en train de faire du BMX, enfin tout ça. Et ça, a priori, en termes de population de PNJ, ça a l'air d'être massif par rapport à GTA 4, qui l'air de rien, GTA 4 affichait énormément de PNJ à l'écran. Et donc a priori, ça a l'air, en termes de vie et de remplissage de cet univers, ça a l'air d'être assez impressionnant.
J'ai d'autant plus hâte de voir ce que ça va donner que ce qu'ils ont fait dans GTA 4, qui va leur beaucoup leur servir du coup pour ils ont capitalisé ça pour GTA 5. C'est leur ce qu'on appelle les ragdolls, enfin c'est-à-dire le système qu'ils ont utilisé pour l'animation de leur personnage. Qui est juste super pointu, quoi. Enfin, c'est un des trucs, vous le savez peut-être pas, mais c'est l'un des trucs les plus pointus qu'il y a dans l'industrie, ce qu'ils ont fait. C'est en fonction que tu vas taper avec ta voiture, le PNJ ne va pas s'animer pareil, quoi.
Ouais.
Et ça, pour la vie de leur jeu, je pense qu'ils vont s'en servir, ce taf qu'ils ont fait sur GTA 4, ils vont s'en servir un max sur GTA 5, quoi.
Ouais. Et a priori, ils ont vraiment raffiné tout ce qui est gameplay, donc le système de couverture, le système de fusillade, le système d'escalade aussi, puisqu'a priori on pourra escalader beaucoup plus de choses qu'avant. Et
est-ce qu'on pourra se la jouer à la Infamous?
Je ne pense pas. et a priori, par contre, il y a beaucoup plus d'environnement intérieur. Parce que c'était un reproche qui avait été fait à GTA 4, l'air de rien, c'est qu'il y avait énormément d'immeubles, mais il y avait très peu d'immeubles dans lesquels on pouvait entrer. Seuls ceux dans lesquels on entrait dans les missions pouvaient être explorés.
Et ça, c'est dommage. GTA 4, je crois, à part, il y avait peut-être il y avait le bar de Gettoni, je crois.
C'est un DLC, donc c'était pas dans le jeu lui-même, tu vois. Ouais.
Il y avait pas énormément, maintenant je le dis, c'est vrai qu'il y avait pas tellement de vie en intérieur que ça, quoi.
Mis à part les planques dans lesquelles tu rentrais pour aller sauvegarder, c'était tout.
Ce qui, du coup, renforçait ce reproche qu'avaient les joueurs vis-à-vis de GTA 4, c'est-à-dire qu'en fait, t'avais juste un hub qui était la map générale qui servait d'aller à un point A, un point B, que finalement, voilà, quoi.
Exactement.
Ça manquait de variété. Donc c'est pas plus mal.
Et là, il y a un truc qui m'a vraiment fait plaisir quand j'ai lu ça. C'est que a priori, donc il y a des immeubles dans lesquels tu pourras, mettons, t'es coursé par les flics, t'as 3 étoiles de recherche, mais un truc dans le genre. Tu te planques dans un immeuble, donc la fusillade et tout. Les flics essaient de te déloger de là. Ils peuvent rentrer à l'intérieur. Enfin, si tu veux, ils ont un comportement différent de si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur. Et a priori, ça a l'air, enfin, ils vont vraiment genre balancer le SWAT à tes trousses si t'es, et donc ça a l'air vraiment intéressant. Alors a priori, alors attention, hein, ce ne sont
Morgan,
que
t'es pas le con, rends-toi.
C'est ça. Il y a des enfants dans cet immeuble. Faites attention. Alors a priori, en parlant d'enfants, il y aura pas de PNJ enfant dans GTA V.
J'ai envie de dire.
On sait pourquoi.
Quelle surprise.
on sait
ça,
pourquoi.
Pas du tout.
Et a priori, les développeurs sont encore en train de se tâter à mettre la possibilité de tuer les animaux. Ce qui avait été déjà reproché à Red Dead Redemption, mais ils avaient réussi à s'en sortir là-dessus, parce que bon, ça décrit la réalité de l'époque quand même.
Non,
mais...
pas, c'est le Far West, putain. T'imagines, voilà. Tu joues dans le Far West, tu veux pas tuer des écureuils, quoi, sérieux, t'es ma gueule.
Et, par contre, dans GTA V, je pense que ça posera beaucoup plus problème. Et, enfin, faudra voir s'ils réussiront à faire ça.
Je sais pas, enfin. Je trouve ça un peu ridicule, enfin.
Mais tu sais bien que Famille de France et les autres sont généralement très ridicules.
Ouais, mais enfin...
Donc bon.
Ça m'exaspère. Enfin bref.
Ouais. Voilà. GTA V, moi personnellement, ça m'excite beaucoup. J'ai très envie de voir ce que le produit fini donnera. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais en tout cas, moi, ça me donne envie.
Moi, si tu veux, j'étais un peu déçu quand même. Parce que même si c'était pas, moi, franchement, je n'ai pas cru une seconde si c'était faire quelque chose en dehors des États-Unis, hein, qu'on soit clair. Mais Los Angeles, je trouve que ça commence à faire beaucoup.
Bah, j'aurais bien aimé avoir une autre ville.
Moi, si tu veux, ça fait des années que j'ai un fantasme qui s'appelle GTA Nouvelle-Orléans. Alors, je sais, on va me rétorquer certains que oui, la Nouvelle-Orléans, ce n'est pas une ville très peuplée et tout. Et moi, je réponds, on s'en branle. Que la ville soit pas très peuplée, on s'en branle. Je veux dire, c'est pas comme si dans GTA 4, la ville était à une échelle, une taille 1-1, de reposition 1-1 de New York, tu vois. Faut arrêter de se moquer du monde. Il suffit qu'ils augmentent l'échelle. Et puis c'est bon, hein, t'auras l'impression d'être dans une grande ville, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème là-dessus. Et moi, pourquoi je fantasme sur la Nouvelle-Orléans, c'est parce que bon, déjà, il y a tout l'ambiance, enfin tout le côté quartier français et tout, qui pourrait être très sympa à exploiter. Même au niveau de la région, tu vois, t'as le Bayou et tout, enfin t'as ces trucs-là, ça pourrait être vachement sympa à exploiter. Au niveau social, critique sociale, qui est quand même un des trucs de GTA, quoi. Je veux dire, la Nouvelle-Orléans, putain, mais si ça c'est pas une mine d'or pour les gars de Rockstar, je veux dire, la Nouvelle-Orléans c'est quand même un peu la ville des États-Unis qu'on a abandonné lors de Katrina, parce que voilà, c'est des pauvres et qu'on s'en branle, quoi, enfin, grosso modo, hein. C'est la ville où, quand les mecs se sont enfuis de la ville pour aller dans le comté voisin, les gars du comté voisin leur ont dit, non, vous venez pas chez nous. Enfin, je veux dire, c'est, il y a tellement de choses à dire dans ce lieu-là.
C'est vrai.
Que en plus voilà quoi, c'est dans les États-Unis, c'est un truc original quoi, c'est il y a même pas besoin pour... moi c'est pour ça en plus je disais mais pourquoi vous voulez aller aux États-Unis, au Brésil, en Europe, au Brésil, enfin ou même en Asie, je sais pas, alors qu'aux États-Unis je suis sûr qu'il y a plein de trucs originaux qui pourraient être exploités quoi. Bon ouais. Après, bon, évidemment, c'est un GTA, hein, je vais quand même l'attendre, faut pas déconner non plus, parce que, rien que pour la mise en scène et tout, je veux voir ça. Bon, il faut savoir que moi, autant GTA 4 de base, bon, j'ai trouvé Niko Bellic sympathique, mais c'est pas non plus un jeu qui m'a super marqué, quoi. Autant GTA The Ballad of Gethony, alors là, je suis totalement fan, le casting m'avait conquis et tout, alors j'attends de voir ce que ça va donner. moi, de toute façon, toutes les ambiances à la Vice City, un peu, Vice City, c'est aussi un jeu que j'avais, de toute façon, Gateway, de toute façon, c'est un jeu qui s'inspirait très clairement de Vice City, hein, donc.
Très clairement, ouais.
Donc, j'attends de voir ce que ça va être et, assez à suivre.
Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, si tu veux vraiment jouer dans la Nouvelle-Orléans, il faut que tu joues à Infamous 2. Hein.
Oui, je sais.
Donc voilà. Tu l'as, ton GTA V dans la Nouvelle-Orléans.
Et bien voilà, c'est tout pour l'actualité cette semaine. We'll be right back. maintenant, ouais, on passe à nos jeux du moment, enfin, ton jeu du moment, pour être précis. S'appelle Orc Must Die, et il me semble que c'est un jeu indépendant, non?
Pas tout à fait, non. C'est ça. En fait, il a été développé par Robo Entertainment, qui est en fait un studio qui est né de la mort du célèbre Ensemble Studio, qui ont fait Age of Empires, Halo Wars. Mmh. Donc, qui est un studio qui est lié en fait à Microsoft Studio. Donc, l'éditeur en fait, c'est Microsoft.
Ouais.
Donc, c'est sorti sur XBLA et sur PC. Donc c'est un jeu qui est disponible pour 1200 Microsoft points, donc 13,99€, un truc dans le genre, sur PC. Orcs Must Die, donc c'est un tower defense qui est réalisé en full 3D. Et c'est très 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 sympa. Je vais vous... généralement pour les tower defense, les scénarios, on s'en rend
l'un peu. Quand tu dis full 3D, c'est-à-dire c'est... c'est vu à la troisième personne, oui. C'est vu du dessus, oui.
C'est vu à la troisième personne, en fait, on voit le personnage de dos, on vise comme un TPS classique, et c'est avec, donc en fait, généralement, l'arme de base, c'est une arbalète, j'y reviendrai, et on peut placer des pièges sur les niveaux, et donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus, tout de suite, quand j'aurai parlé du scénario... qui tient sur un ticket de métro.
J'ai moi on dit une feuille de PQ, mais
ouais, c'est quand même plus gros. Hein, je veux pas dire. Donc bon, alors sur Orcs Must Die en fait, il y a un grand mage, un sorcier qui meurt en fait en glissant dans une mare de sang de gobelins et qui se fracasse le crâne sur un escalier. et en fait, on incarne son apprenti. Qui est tout simplement est considéré comme un bon à rien par son maître et cet apprenti est le seul rempart qui va subsister entre les orques et le monde et la terre, parce qu'en fait c'est un monde en fait où il y a la terre et il y a en fait des portails qui mènent à la terre et ce sont les mages de guerre en fait qui doivent protéger ces portails pour contre les orques, pour les empêcher en fait d'entrer sur la terre et de massacrer tout la veuve et l'orphelin. Voilà. Donc nous incarnons le dernier mage de guerre encore vivant, un apprenti bon à rien, un petit peu comment dire, avec une verve assez particulière. Donc c'est un scénario qui est décalé, assez sympa. Vous verrez dès que vous entrez dans le jeu, vous comprenez tout de suite que le maître n'aime pas forcément son apprenti, mais l'air de rien, il est toujours assez paternel avec lui. Donc en gros, le narrateur, c'est le dans les cinématiques, c'est le maître, et l'apprenti, toujours au début des missions, va lancer des petites phrases assez sympas et quand il pose des pièges aussi, il va dire ça m'a l'air sympa, ça va faire de la giclée d'orque et donc voilà, c'est très décalé, il y a pas mal d'humour. Ne vous attendez surtout pas à un Seigneur des Anneaux, hein, c'est très très cartoon, ne serait-ce que dans le style visuel, et l'air de rien, peu de sérieux, c'est pas forcément nul, ça apporte un plaisir qui est de l'ordre de l'enfantin, et je trouve que c'est très sympa pour un jeu dans ce genre-là. Alors, donc, on va parler surtout du système de jeu, parce que bon, le scénario, c'est bien sympa, mais bon, c'est le jeu qui est intéressant. Donc, en gros, le but, c'est de tuer le plus d'orques possible et de les empêcher d'atteindre vos portails. Il y a un ou plusieurs portails dans chaque niveau. Il y a généralement un ou plusieurs points d'entrée des orques, et donc vous avez plusieurs vagues qui vont vous arriver à la figure, et il va falloir que vous fassiez la défense la plus efficace possible pour les empêcher d'arriver à vos portails. Donc vous avez un certain nombre de points de ce qu'ils appellent les points de faille, vous en avez mettons 20 ou 50 par niveau, et chaque orque qui entre par la faille vous fait perdre ses points de faille. Si vous arrivez à zéro, évidemment, vous avez perdu la partie, vous n'avez plus qu'à recommencer. Donc pour cela, pour les empêcher d'entrer par la faille, il va falloir que vous posiez des pièges. Alors il y en a énormément, je crois qu'il y en a plus de 25, 30 à peu près. tous plus originaux les uns que les autres. Alors vous avez évidemment les pics qui sortent du sol, comment dire, des flèches qui sortent des murs et qui vont massacrer tous les orcs qui passent devant, des scies rotatives qui sortent des murs et qui vont charcler tous les orcs qui passent devant. Bon, ça vous donne une idée. Généralement, quand un orc meurt, vous le voyez, et ça fait des gerbes de sang assez impressionnantes avec des membres déchiquetés de partout. Donc ça donne un petit côté jouissif à la mort de l'orc. C'est assez mystique. C'est toujours très marrant. Donc je le disais, c'est sous la forme d'un TPS. Donc vous voyez votre personnage de dos. Vous utilisez le curseur ou le stick analogique pour viser et poser vos pièges. Alors chaque piège va vous coûter un certain nombre d'argent, de l'argent que vous récupérez en tuant des orques évidemment. Donc vous commencez le niveau, vous avez la phase d'observation en fait, où tu vas regarder tout simplement où se trouve la faille,
où tu vas poser tes trucs quoi, tout
exactement,
simplement.
Exactement. Donc tu vas regarder d'abord comment est le niveau, donc pour regarder où est la faille, où est le point d'entrée des orques, et tu vas regarder les endroits stratégiques à défendre, là où tes pièges seront les plus efficaces, tout simplement. Donc généralement c'est les goulots d'étranglement, hein, je vais pas vous faire de dessin, là où
c'est
tous les
assez
orques...
Classique, voilà. C'est assez classique pour le coup.
Classique du Tower Defense, évidemment. Et donc, vous commencez avec un petit peu d'argent qui va vous permettre de placer des pièges. Donc, plus le piège est efficace, plus il va vous coûter d'argent, évidemment. Plus vous utilisez de pièges chers, moins vous en aurez pour vous défendre dès le départ. Donc il faut faire très attention, soit vous faites confiance à vos capacités à l'arbalète, soit vous faites plus confiance à vos pièges et vous tuez les orques qui réussissent à les passer. Donc ça c'est à vous de voir si vous avez assez de skill pour tuer les orques qui vous arriveront à la figure tout seul sans piège. C'est faisable sur les premiers niveaux. Sur les autres, c'est infaisable, je vous le déconseille. Vous allez perdre, c'est ridicule de faire ça. Donc voilà. Donc vous posez vos pièges. D'ailleurs, généralement, vous allez avoir des pièges favoris, donc que vous utilisez plus ou moins bien que d'autres. Donc ça, c'est à vous de voir. Il y a assez de choix pour que vous puissiez choisir en votre âme et conscience. À savoir que vous aurez maximum 9 ou 10 pièges à utiliser. En fait, lors de la phase d'observation, tu vas choisir quels pièges seront les plus efficaces dans ce niveau-là. Donc tu auras forcément ton arbalète. Et après, c'est à toi de choisir quels pièges tu veux utiliser. Et tous les autres que tu n'as pas choisis, tu pourras pas les utiliser dans ce niveau-là. D'accord? Sauf si tu le recommences et que tu choisis ces pièges-là.
Donc il faut vraiment bien préparer.
Il faut vraiment faire très attention, sachant qu'il y a certains pièges qui sont inutiles sur certains niveaux, parce que il n'y a pas les conditions qui font que tu peux l'utiliser. Donc voilà, si vous prenez juste les pièges parce que vous les aimez bien et que vous faites pas attention aux conditions du terrain, vous allez peut-être avoir de mauvaises surprises. Donc autant mettre à profit cette phase d'observation. Évidemment, plus les vagues avancent, plus il y a d'orques, donc plus vous avez besoin de pièges. Il y a aussi des orques de catégories différentes. Donc tu as les orques normaux, stupides, qui foncent vers la faille, et s'ils te voient, ils vont te foncer dessus au lieu de la faille. Tu as les arbalétriers qui font pas mal de dégâts, donc faites attention à pas être dans leur champ de vision.
Il y a comme on dit sur StarCraft 2, à pas vous commit.
Exactement. <ouais. rire> il y a les petits gobelins qui sont hyper rapides, assez petits, il faut faire très attention parce qu'ils sont très rapides et ils foncent vers la faille. Et si vous les voyez pas, vous allez perdre des points de faille à plus savoir qu'en faire, donc faites très attention. Et puis il y a les ogres qui sont énormes, qui ont beaucoup d'endurance, donc beaucoup de points de vie, et il leur faut beaucoup beaucoup de pièges et beaucoup de tirs d'arbalète dans la figure pour les tuer. Et ceux-là, s'ils arrivent par malheur à arriver à votre faille, vous perdez plus de points de faille. parce qu'évidemment ils sont énormes et vous pouvez pas les rater. Donc faites attention à ça. Donc l'air de rien. Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi les orques volants. Enfin, c'est pas des orques, c'est des sortes de démons qui volent. Et donc il faut faire très attention parce que du coup, il y a plus les vagues avancent, plus c'est difficile de s'en sortir. Et plus il va vous falloir être très attentif à ce qui se passe, que ce soit au sol ou en l'air. Donc, et ça, l'air de rien, ça apporte pas mal de variété au gameplay. À savoir qu'en plus des pièges, vous avez d'autres armes. Donc, j'ai dit l'arbalète. Il y a une lance aussi, si vous êtes très corps à corps. Moi, personnellement, je l'ai jamais utilisée parce que je trouve que c'est pas très efficace. Mais vous avez aussi, vu que vous êtes un sorcier, vous avez des sorts. Et notamment la boule de feu ou la boule de glace. La boule de feu, par exemple, elle va vous pourrez cramer, je sais pas, une dizaine d'ennemis d'un coup. Donc c'est très efficace, mais c'est ça vous utilise de la magie, évidemment. Voilà, donc il y a beaucoup beaucoup de choses. L'air de rien, c'est très très varié et ça apporte quand même un sentiment de plaisir assez primaire de réussir à repousser une dizaine de vagues d'affilée d'orques et l'air de rien, je trouve que c'est très très addictif. Moi j'ai fait tester ça à mon frère, je lui ai dit tiens regarde, je te montre même pas comment ça se joue, teste, tu vas voir comment ça marche. Et je lui ai dit ça, il a fait une nuit blanche sur le jeu. Comme ça, genre et voilà, allez, pourtant il est très très jeu blockbuster et pourtant le jeu lui a parlé quoi. Et
tu as corrompu ton frère.
Exactement. Et c'est assez impressionnant parce qu'il a passé quand même 6-7 heures de jeu d'affilée dessus. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer à quel point c'est addictif. Et ben comme tous les tower defense généralement, c'est très très addictif. Donc variété du gameplay, beaucoup de fun. Donc ça c'est vraiment de très très bons points. J'ai quand même quelques petits bémols parce que pour le moment j'ai dit que du bien du jeu. Les petits bémols
ça fait un peu susboule là. Je peux pas dire mais ouais. Un peu lèche-cul. Hein,
exactement. je me doutais bien que tu me rappellerais à l'ordre. Donc le premier, en fait, ce que j'ai à reprocher au jeu c'est le manque de mode en fait. Il y a pas de
C'est ce que j'allais te demander parce que depuis tout à l'heure je t'entendais parler, je disais mais il y a pas d'autre mode de jeu.
Exactement.
Voilà.
En fait, il y a un mode histoire qui il faudra 6 heures de jeu en mode normal, ce qui est plutôt honnête. Après vous débloquez en fait le mode difficile mais j'y reviendrai. Après il y a rien d'autre. Il y a pas de mode multijoueur. Que ce soit en ligne ou en local, et ça, franchement, c'est vraiment, vraiment dommage, parce que...
Bah oui, surtout qu'un jeu comme ça, ça serait bien, tu vois, de faire des plus grosses maps, ou avec des unités qui arrivent... Enfin bref...
Mais ne serait-ce que les mêmes
maps... Tellement massif qu'il y aurait besoin de plusieurs joueurs et tout, voilà quoi, enfin un truc fun, quoi.
Et ne serait-ce que les mêmes maps à deux... parce que généralement il y a plusieurs endroits pour qu'ils puissent passer les orques. Donc si vous êtes deux, ça sera plus facile évidemment, mais vous avez un stock de points pour acheter vos pièges qui est commun. Donc ça aurait été vraiment très très sympa et je pense que ça aurait amené une dimension coopérative très très sympa. Genre dit vite donne-moi du fric, il faut absolument que je pose un piège à cet endroit-là. Enfin voilà. Et ça c'est quelque chose que j'imagine sur ce jeu. Et malheureusement, ça y est pas. Et que ce soit, moi, ne serait-ce qu'en local, ça aurait été parfait, mais en ligne, ça aurait été encore mieux, je pense, parce que chacun a son écran et chacun fait ce qui lui plaît en ligne avec les micros, on peut s'entendre très bien. Donc malheureusement, c'est pas possible. Et franchement, ça, si ça avait été fait sur ce jeu-là, je pense qu'on aurait eu un très très grand jeu. De même. Alors ça c'est quand même assez récurrent sur Xbox 360, mais il n'y a pas d'éditeur de niveau. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de donc sur Xbox 360 en tout cas, il n'y aura pas de niveau des joueurs et que vous pourriez télécharger à la manière d'un Little Big Planet ou autre pour jouer au niveau torturé que les joueurs auront prévu pour vous. Et ça malheureusement l'air de rien ça ampute beaucoup de la durée de vie au jeu. Et bon, j'imagine que sur PC ça va être pallié par les modeurs, mais c'est quand même assez dommage de pas pouvoir éditer ces niveaux, parce que bon, je crois qu'il y a environ 25 niveaux sur le jeu, ce qui est pas mal, Il y a 6-7 heures de durée de vie sur le mode normal, c'est pas mal non plus, mais si tu rajoutes un éditeur de niveau, un mode multijoueur, ça aurait pu être de l'ordre de 20 heures de jeu, tu vois. Donc malheureusement, c'est l'absence de ces deux modes me font dire que c'est pas le hit que le jeu aurait pu être, malheureusement. Après, pour rajouter un petit peu de durée de vie, vous aurez moyen de faire le jeu en difficulté cauchemar, donc le mode difficile, hein, tout simplement, qui va, à mon avis, doubler la durée de vie du jeu. Qu'est-ce que ça change en fait, le mode cauchemar? C'est que vous n'avez pas de phase d'observation, vous êtes lancé directement, vous arrivez dans le jeu directement, les orques arrivent. Donc vous avez pas le temps de poser vos pièges en regardant les niveaux. Il faut vraiment que vous les connaissiez par cœur. Et il n'y a jamais de pause entre les vagues. Donc mais généralement en mode normal, à la fin de la vague 3, t'as une pause, et tu souffles un petit peu et tu poses tes pièges pour les vagues suivantes. Là, il y en a pas sur le mode cauchemar. Donc c'est vraiment plus difficile avec des orques. Tout de suite plus dur. Si vous êtes vraiment à fond et que vous voulez vraiment de la durée de vie, il y a moyen. Hein. C'est pas non plus ridicule de ce côté-là. Donc voilà. Moi personnellement, très personnellement, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. J'y ai joué. Je l'ai terminé d'une traite. Parce que c'est vraiment très très addictif comme tout tower defense. C'est vraiment très bien fait. Alors c'est pas magnifique non plus, mais il y a un aspect cartoon qui lui donne une identité assez sympa. Il y a pas mal de variétés de gameplay. Chacune des situations peut être prise d'une manière différente et chaque joueur n'aura pas forcément la même manière d'appréhender chaque niveau. Et ça c'est très très sympa. Malheureusement, il n'y a pas de mode multijoueur, il n'y a pas de mode d'éditeur de niveau. C'est vraiment la petite cerise sur le gâteau qui manque à ce jeu. Voilà. Est-ce que tu as peut-être des questions à me poser?
Bah non, ça m'a l'air très complet. En fait, tu m'as décrit en long, en large et en travers.
Tower Defense, quoi.
Ouais. Bah en tout cas, c'est vraiment très très bien.
Mais je retiendrai quand même en bémol l'absence de plusieurs modes. Ça, je veux dire, c'est vraiment très dommage, quoi. C'est ouais. Bon. Apparemment, de ce que tu m'as dit, le jeu vaut quand même le coup. Hein. Faut pas s'arrêter à ça.
Ouais.
Mais
ça vaut 13 euros, quoi. C'est pas
non plus comme si le jeu, c'est ce que j'allais dire, c'est pas non plus comme si le jeu coûtait une blinde, quoi. Donc,
bon, si vous êtes un petit peu près de vos sous en ce moment, attendez sans doute qu'il baisse de
les promos Steam. Il va y avoir les soldes de fin d'année sur Steam là. Je vous parie ce que vous voulez que le jeu sera en solde.
Mais voilà. Déjà, franchement, au prix maximal, déjà rien que ça vaut le coup. Si vous arrivez à l'avoir à moins cher, foncez. Franchement, foncez parce que c'est vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai peut-être manqué un petit peu d'objectivité là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment très très bien.
On n'est pas obligé d'être objectif non plus. Hein. Vive la subjectivité, n'est-ce pas?
Voilà. Et franchement, c'est un jeu que j'attendais pas plus que ça et qui m'a vraiment beaucoup surpris. Voilà, donc si vous voulez un petit peu plus de détails, un petit peu de pub, le test écrit est déjà en ligne sur Game Info. Donc allez-y si vous avez besoin de plus de détails que ça, voilà.
Et voilà, donc on a terminé pour les jeux cette semaine et on va passer au point culture.
Je ne crois pas que vous vous rendiez compte que vous allez au-devant de grands dangers. Regardez ça. La licorne. Quel secret renfermes-tu? Comment as-tu pu les laisser filer?
Ce jeune homme, comment s'appelle-t-il?
C'est Tintin.
Et un point culture très original, mon cher Mandraine, là, j'avoue, je suis impressionné. Je crois que ça parlait de Tintin, n'est-ce pas?
Ouais. Je suis allé au cinéma il y a pas longtemps, là, et je suis allé voir le Tintin, évidemment, parce que c'est le film événement de la fin octobre. En même temps, quand t'as l'affiche réalisée par Steven Spielberg, bon, tu te dis que, bon, on tient le film événement du mois. En plus, c'est coproduit par Peter Jackson, qui est à l'origine du Seigneur des Anneaux, du remake de King Kong. Donc on se dit, bon, on a du lourd. Après, au scénario, quand on dit qu'il y a Stephen Moffat, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps sur Doctor Who, il y a aussi Edgar Wright qui a fait Scott Pilgrim. Bon, tout ça, ça fait beaucoup. Il y a un mélange de talents dans ne serait-ce qu'à l'affiche du film, on se dit, mon Dieu, il faut que j'y aille.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je suis fidèle à la BD?
Voilà. Donc, les aventures.
Déjà, c'est ma question, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai été élevé au biberon avec Tintin, mon père a plein d'albums, donc, est-ce que c'est fidèle aux albums?
Alors.
Déjà.
Donc déjà, revenons sur le titre, Les aventures de Tintin, le secret de la licorne. Alors le secret de la licorne, évidemment, c'est le titre d'un album de Tintin.
Ouais.
Et il faut savoir, je vous préviens tout de suite, que le film, pour avoir un film qui dure 1h45, ils ont fait le choix, les scénaristes, de prendre plusieurs albums de la BD. Donc ils ont pris Le secret de la licorne, ils ont pris La fin du trésor de Rackham le Rouge, évidemment.
Mais bon, ça, à la limite, j'ai envie de dire,
les deux ont
c'est normal. Les
deux ont été conçus en diptyque, hein, donc c'est normal. Et plus surprenant, ils ont pris Le crabe aux pinces d'or. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. C'est que, il faut pas se leurrer, c'est un film qui se dirige avant tout vers le public américain qui ne connaît pas du tout Tintin. Et si tu veux, le film se place comme un premier pas dans l'univers de Tintin. Donc, ce qui fait que le film va te présenter tout l'univers de Tintin dès le départ, si tu veux. Donc, avec un Tintin où tu vas comprendre qu'il est reporter, tu vas comprendre ce qu'il fait, tu vas rencontrer les Dupont. Et tu vas assister à la première rencontre du capitaine Haddock. Et le capitaine Haddock, il est arrivé quand ? Il est arrivé dans Le crabe aux pinces d'or. Donc c'est pour ça qu'on a cette espèce de mélange entre tout ça.
En somme, t'es en train de m'expliquer qu'ils ont fait un vrai travail d'adaptation.
Et voilà, et exactement. Parce que ce travail d'adaptation, c'est souvent ce qui manque aux adaptations cinématographiques.
Par exemple, je vois, je vais faire une petite digression, je vois par exemple récemment l'anime Persona 4, qui est adapté du jeu. Et pour moi, ça, c'est typiquement le genre de truc, le truc qu'il ne faut pas faire, tu vois. Parce que, en fait, ce qu'ils ont fait, un copier-coller du jeu. Et ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce que dans le jeu, le héros est muet.
Ouais.
Pourquoi il est muet? C'est parce que c'est pour permettre aux joueurs de s'approprier le personnage, quoi. Et je veux dire, ça marche dans un jeu parce que c'est toi qui contrôle. Enfin, il y a une interaction, tu vois. C'est toi qui fais les choix de dialogue, c'est toi qui fais le choix d'aller vers tel personnage. Enfin bref, c'est toi qui interprète le perso. Alors que dans l'anime, du coup, le personnage est aussi transparent. Mais là, ça ne marche plus du tout, parce que là, justement, il aurait fallu faire un vrai travail d'adaptation.
Évidemment.
Quitte à faire une discrétion et à lui donner une vraie personnalité. Parce que du coup, l'anime, tout ce qui faisait de celle du jeu, c'était les interactions avec les autres personnages.
Voilà.
Sauf que comme le personnage principal est transparent, il n'a plus d'interaction avec les autres personnages. Ouais. Et du coup, l'anime, à mes yeux, en tout cas, perd tout son intérêt. Ouais. Alors ouais, t'as beau avoir plein de clins d'œil pour ceux qui ont fait le jeu, etc. Ça n'a aucun intérêt pour moi parce que finalement tout ce qui faisait le sel du jeu ne marche pas. Bref, fini la digression. Là, je crois, je préfère qu'ils fassent un vrai travail d'adaptation comme ça, plutôt qu'on se retrouve avec un truc mal branlé où les gens ne comprennent rien parce que bon, voilà quoi. Oui, parce que le capitaine Haddock, il rend patatin dans Secret des Unicorns. Ouais, bon.
Et d'autant plus que c'est particulièrement bien fait. Parce que, si tu veux, en plus, le fan des Tintins, qui va les avoir relus pour aller voir le film, va retrouver pas mal de choses des BD. Et l'air de rien, ça, c'est quand même assez impressionnant. Parce que quand tu vois la scène d'introduction du film, alors pas le générique. Déjà, le générique, c'est ne serait-ce qu'une pépite d'animation. Il faut vraiment que vous le voyez. Mais la scène de mise en place du film, c'est vraiment plan pour plan, mot pour mot, le début de la BD du Secret de la Licorne. Et ça, pour le fan, l'air de rien, c'est vraiment très très sympa. Et en plus de ça, il y a un certain nombre de scènes qui sont reprises du Secret de la Licorne, le crabe aux pinces d'or et le trésor de la
Licorne. Une petite parenthèse. Rassure-moi, ce n'est pas tout le film. On reprend tous les plans des albums.
Non, justement.
Ça aussi, je veux dire, c'est un truc qui est un peu lourd dans certaines adaptations. Justement. Faire copier-coller. C'est vrai qu'il y a. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a. Faut avoir un respect de l'œuvre, tu vois.
Voilà.
Faut pas faire genre les trucs. Je suis une légende qui pour moi est un véritable sacrilège où ça se transforme une ode au catholicisme alors que c'est pas du tout le propos du bouquin, tu vois. Donc bref.
Ouais. Donc en fait, il y a un vrai respect de l'œuvre. Pourquoi? Parce que il y a alors pas toutes les scènes justement, il y a un certain nombre de scènes qui sont reprises des albums. Généralement c'est les plus grosses scènes, les plus belles scènes des BD. Et en plus de ça, ils te mettent des petits clins d'œil, des petits clins d'œil que seuls les fans pourront reconnaître. Et ça, franchement, c'est beau, quoi. On voit que c'est pas juste pour faire du fric qu'ils ont repris la licence Tintin. Parce qu'il faut savoir que Spielberg, en fait, il avait parlé avec Hergé avant sa mort, et Hergé lui avait confié la mission d'adapter sa série au cinéma. Et donc il faut voir qu'il a pris une trentaine d'années quand même pour faire ça. Et c'est vraiment très très bien fait. Parce que donc le fan va s'y retrouver, le néophyte va avoir accès à un univers qui est complètement cohérent et qui n'est absolument pas sacrilège avec l'univers de Tintin. Même les Américains qui n'ont sans doute jamais lu de Tintin de leur vie... pourront avoir accès à cet univers qui est l'air de rien assez complexe, avec tous ces personnages, toute la galerie de personnages de Tintin, alors bon, les plus importants hein, évidemment, et ça c'est vraiment bien fait, et il n'y a jamais de... je trouve que l'œuvre n'a jamais été dénaturée. Alors certains te diront que oui, c'est des Américains, alors ils font un film d'action pur et dur, Alors c'est un film d'action, c'est un vrai bon gros film d'action, mais faut pas oublier non plus que Tintin, c'est des aventures de Tintin. C'est pas, je veux dire, c'est il y a quand même un parallèle à faire avec Indiana Jones, l'air de rien. Et du coup, c'est vrai que on pourrait peut-être commencer à croire, enfin certains croient que le nouveau Tintin est en fait le vrai Indiana Jones 4. Je m'avancerai pas sur ce terrain-là, mais c'est vrai que c'est un vrai film d'action, ça n'arrête pas, il y a de l'aventure tout le temps, donc je vous fais pas le scénario, hein, parce que bon, pour ceux qui connaissent le scénario du Secret de la Licorne, c'est ça, hein, donc,
spoiler!
Je vous fais pas le résumé, ça ne sert à rien, et ceux qui ne le connaissent pas, bon bah vous tapez le Secret de la Licorne et puis vous trouverez. Voilà, donc moi ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'il y a un vrai respect de la BD, et en plus ils arrivent à faire un film d'action qui n'a rien à envier à tous les autres films d'action qui sortent de nos jours. Et en plus de ça, c'est un film qui technologiquement est juste magnifique, quoi. Alors moi personnellement, en ayant vu pour la première fois le style visuel du film,
c'est,
je m'étais dit,
c'est
oh,
très spécial quand même. Hein, c'est...
Je me suis dit, oh, c'est spécial. Je sais pas si je vais aimer. Et j'étais en train de me dire, tu sais, en mode trolling, les Américains qui arrivent sur Tintin, ouais, bon, c'est machine à thunes, quoi. Et en fait, le style visuel m'a vraiment conquis. Moi qui ne l'étais pas du tout à la base.
Si je me souviens bien, en fait, c'est des vrais acteurs derrière. Ouais. Sauf que il y a un truc, pas un filtre, mais il y a un truc sur les visages pour que ça soit en 3D, pour que ça, qu'il y ait les visages des acteurs, des personnages. de la BD, quoi.
C'est ce qu'ils appellent, en fait, la, je crois que c'est la motion performance. Donc, c'est autre chose encore que la motion capture. Et c'est plus poussé encore. Parce que, si tu veux, ça ressemble un petit peu à ce que faisait Avatar, mais en plus poussé. Donc, t'as vraiment l'acteur qui joue... ça n'a pas été créé et animé par un animateur, mais tous les acteurs ont vraiment joué le jeu, ont vraiment joué dans le film, et ça se voit vraiment parce qu'il y a une qualité d'animation qui n'est trouvable nulle part ailleurs, tout simplement. Tu vois vraiment tout, sur les mouvements des personnages, ça fait vrai, quoi. Et ça l'air de rien, c'est vraiment bien fait. Et en plus, le style graphique qui est l'air de rien entre le cartoon et le réaliste, parce que c'est assez spécial.
On voit quand même que c'est des vrais acteurs derrière. Mmh. Hein.
Ça se voit. Et en fait, je trouve que c'est assez inimitable et ça marche vraiment, en fait, avec cet univers-là. Parce que, tu vois, genre, le Capitaine Haddock, tu peux pas le confondre avec n'importe qui d'autre. Les Dupont, tu les reconnais. La Castafiore, tu la reconnais. Tintin, évidemment, tu le reconnais. Tu vois, c'est... Ils avaient pas besoin de se déguiser en marionnette pour réussir à faire un Tintin. Et ne serait-ce... Enfin, le design général du film... je trouve qu'il est vraiment, pas parfait, hein, évidemment, mais il est fidèle et il est cohérent, en tout cas, de bout en bout. Et le dernier truc qu'il faut rajouter, c'est vous savez que je suis pas du tout effet 3D relief au cinéma. Pour une fois. Pour une fois.
Pas dire, mais ça fait vendu. Vous êtes vendu, monsieur Mordren. Ouais. Vous êtes vendu.
J'avoue, ça fait vraiment que je suis vendu là, mais l'effet 3D là, il est, c'est comment dire, la leçon à tous ces films qui ont été adaptés en 3D et qui ont fait de la merde. C'est-à-dire que là, sur chaque plan, il n'y a pas un plan qui se passe de la 3D. Et la 3D qui est vraiment bien bien poussée dans ces retranchements.
Tu dirais que c'est mieux que dans Avatar ou...
Bah, moi personnellement, c'est assez personnel parce que Avatar, la 3D, je l'ai pas vue. Et si tu veux, genre je l'ai vue mais que sur les sous-titres. Donc je me suis dit ouais bon ok. Mais là, parce que c'est assez particulier. C'est assez personnel l'appréhension de la 3D, donc
la perception quand même ce que tu me dis ça m'étonne parce que je me souviens bien avoir vu de la 3D dans Avatar, mais
en fait si tu veux c'est le premier film que j'ai vu en 3D comme beaucoup de gens d'ailleurs et moi ça m'avait pas choqué plus que ça et ça m'avait pas paru utile et sur Tintin il y a vraiment une utilisation très très ingénieuse de la 3D, notamment je sais pas si tu vois mais avec la 3D en fait les effets de lumière ils gagnent en réalisme, enfin ils gagnent une certaine dimension, une certaine profondeur que n'a pas les films en 2D, et c'est vraiment très très bien fait dans Tintin et tu distingues vraiment bien les différents plans de lecture et je trouve que c'est... Alors c'est pas fait pour te dire tiens regarde il y a de la 3D, je te fais arriver un avion à la figure. C'est vraiment il y a pas un plan qui se passe de la 3D et franchement je trouve que ça m'a mis sur le cul parce que moi personnellement je suis un détracteur de la 3D au cinéma du moins et pour une fois je retourne ma veste, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un avis à sens unique. Hein. Je n'ai dit que
vendu,
du bien.
Vendu.
J'ai des actions chez Spielberg, hein, sachez-le. non, mais en fait, je l'attendais pas du tout ce Tintin. Je le regardais d'un œil assez suspicieux, en me disant que bon, les Américains et Tintin, c'était peut-être pas forcément le meilleur mariage qui pouvait se faire. Ça donne quelque chose de très bien, de très respectueux.
Bah quand même, ça faisait plusieurs années que Spielberg voulait adapter Tintin, hein, donc il a pas lâché le morceau, le pépère. Mais son Tintin.
Il a bien fait. Et je trouve que ça donne un vrai film d'aventure. Alors même ceux qui connaissent pas Tintin, qui se foutent de Tintin, qui n'aiment pas Tintin, ils auront un film d'aventure digne de ce nom. Déjà rien que ça, c'est important. Ceux qui aiment Tintin, ils vont réussir à retrouver leur univers, à trouver un vrai respect de l'œuvre et à avoir en plus pas mal de petits clins d'œil. Et ça, c'est sympa. Ça va plaire aux enfants et aux adultes. Alors les enfants qui vont évidemment rire à tous les gags du film, et les adultes qui vont retrouver un petit peu leur enfance dans leurs albums de Tintin, en fait. Et je trouve que ce qu'on peut dire de mieux sur le film, c'est qu'il donne envie de relire ou de lire les BD. Et ça, franchement, c'est quand même assez. Je trouve que c'est un tour de force. Et c'est ce qui me fait dire, en fait, enfin, que pour moi, c'est le coup de cœur, en fait. C'est mon coup de cœur au cinéma du moment. Donc j'y vais assez souvent quand même au cinéma, et je trouve que c'est un des meilleurs films du mois d'octobre, en tout cas. Donc voilà.
Okay.
Après, gros succès déjà, et c'est mérité.
Voilà. Bon, bah écoute, allez voir Tintin, vous avez compris le message. Et bah voilà, c'en est fini pour cette semaine. Rendez-vous, écoutez, pas la semaine prochaine du coup, parce que malheureusement,
on aura une pénurie de personnel a priori.
Bah écoutez, moi ma nièce est née, hein, donc je vais voir ma nièce, hein, vous êtes gentils les enfants, mais chacun ses priorités, hein, n'est-ce pas? Et désolé pour la semaine dernière, parce qu'il faut comprendre que nous ne sommes que trois pour entretenir les podcasts et que des fois, donc il y a des petits couacs, donc,
ouais.
Et on essaiera en tout cas d'en faire le plus souvent possible. Donc, quoi qu'il en soit, merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Jouez bien et à la prochaine. Ciao.